fous du volant, est-ce que vous vous êtes bien remis de ce Grand Prix d'Australie? Parce qu'il faut bien avouer qu'il n'y a pas que le décalage horaire qui a fait mal au crâne le week-end dernier. Le déroulement même de cette troisième épreuve de la saison nous a laissé un goût amer à nous et à tous les amoureux de la discipline. La F1 Popcorn, on va en parler avec Stéphane. T'as fait une indigestion toi aussi Stéphane?
Complètement, là c'était trop c'est trop je dirais. On est dans une dérive lente mais certaine. Je ne sais pas si on parviendra à la stopper.
On va aussi parler de Mercedes qui semble avoir fait un pas en avant à Melbourne avec notamment la deuxième place de Lewis Hamilton et puis la deuxième position aussi sur la grille de départ de George Russell. Et puis on évoquera évidemment l'accrochage en interne chez Alpine avec ce contact et cet abandon entre Pierre Gasly et Esteban Ocon en Australie. Et on essaiera de savoir avec Stéphane, bah, finalement, pourquoi il y a des choses positives à prendre de ce passage en Australie pour Alpine, malgré ce zéro pointé. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec un sujet, j'ai le sentiment qu'on l'a déjà évoqué à plein de reprises Stéphane dans les fous du volant, c'est la gestion des événements de course par la direction de course et plus largement par l'autorité qui gère désormais la Formule 1, la F1 Popcorn, ou quand le spectacle tue le spectacle, parce que c'est un petit peu à ça qu'on a assisté le week-end dernier. Alors évidemment qu'on cherche à rendre une discipline sportive plus spectaculaire, c'est positif, mais on a le sentiment d'avoir franchi une ligne rouge en Australie, et tous les acteurs d'ailleurs ont été un petit peu gênés par la situation, y compris, ça c'est un petit retour que j'ai en interne, y compris Red Bull, qui pourtant a gagné ce Grand Prix, qui a bien remarqué notamment que la conclusion de ce Grand Prix qui s'est faite derrière une voiture de sécurité tranchait radicalement avec ce qui s'était fait par exemple à Abu Dhabi fin 2021, où c'était la conclusion logique qu'il aurait fallu employer. Stéphane, peut-être déjà commencer par ce que tu qualifies en préparant notre podcast, la course de tous les excès, Melbourne 2023.
Dans les chiffres, hein, tout simplement, c'est le premier Grand Prix de l'histoire qui est stoppé avec trois drapeaux rouges. C'est assez exceptionnel, il y en a eu par le passé à cause d'accidents du même type. Mais ça avait un petit peu un caractère exceptionnel. Là, on a le sentiment qu'on pousse un petit peu le bouchon. Il y a eu trois restarts, et puis le dernier symbolique, on y reviendra. Et c'est le cinquième Grand Prix donc avec au moins trois départs. Les précédents, c'était l'Autriche 87, Belgique 90, et puis plus récemment, donc le Mugello en 2020, et puis Jeddah en 2021, toujours pareil pour des questions d'accident. On a eu 5 voitures de sécurité, réelles ou virtuelles, qui ont donné lieu, après pour certaines, à des drapeaux rouges, mais on a assisté à une course quand même particulièrement hachée, et ça enlève le plaisir, on va être très clair là-dessus. C'est, tu l'as dit, une course qui s'est terminée sous régime de neutralisation. Et on avait déjà trouvé sa logique lors du précédent cas à Monza en 2020. Et surtout, c'est une course qui a généré 8 abandons. C'est le plus lourd total depuis Mugello 2020. Il y en avait aussi 8. Et j'ai eu l'impression d'assister en fait à une kermesse sponsorisée par la casse auto du coin.
C'est pas mal. Je disais, on est arrivé à un point où on a l'impression que le spectacle tue le spectacle.
Je dis tue ça le parce sport, que, tue le sport.
Oui, oui, ou même tue le spectacle lui-même, Stéphane, parce que si on prend la première intervention de la voiture de sécurité lorsque Alexander Albon sort de la piste, la voiture est à la fois sur la piste, à la fois dans le bac à gravier, il y a beaucoup de débris sur la piste. Là, on sort la voiture de sécurité et il y a certains concurrents qui décident de bouleverser leur stratégie, de passer par les stands pour changer de pneumatique. C'est intéressant, ça, l'intervention de la voiture de sécurité, parce que ça permet à certains de prendre un pari. Et par exemple, le leader de la course, George Russell, décide, lui, de bouleverser sa stratégie et de passer par les stands. Le problème, je trouve ça intéressant, le problème, c'est que si on met un drapeau rouge derrière, ça condamne tous ceux qui ont pris un risque. Et on aime bien en sport les gens qui prennent des paris, qui prennent des risques. Ça a été le cas pour George Russell, ça a été le cas pour Esteban Ocon aussi. Et finalement, si en plus du risque sportif, On ajoute le risque, on va dire, de lubie du directeur de course qui décide que bah, non, on va mettre un drapeau rouge comme ça refera un départ parce que les téléspectateurs aiment bien ça. Il n'y a plus personne qui prendra le moindre risque stratégique et donc ça va tuer le spectacle. C'est dans ce sens-là que je dis ça, que le spectacle va tuer le spectacle.
Ah bah oui, parce que si dans cette culture-là, dans cette logique-là, tu étais sûr d'avoir un drapeau rouge à peu près à mi-course ou à un moment donné, en fait, les gens seraient assez conservateurs et attendraient ce moment-là.
Ben oui.
Et on irait vers un autre type de course. Moi, ce que j'aime dans la course aujourd'hui, c'est que les gens prennent des paris, ont des stratégies différentes, jouent à deux contre un,
et
on
ça,
y reviendra.
Ça, c'est vraiment intéressant.
Et tu laisses en fait les stratégies dérouler. Et à la fin, tu as des gens qui sont sur des stratégies qui sont vraiment différentes et tu vois les gagnants et les perdants. Mais au moins, tout le monde n'est pas sur le même plan de course. Alors, Russell s'en est plein. Il a dit à son équipe qu'elle avait eu raison de faire ce choix-là.
Oui.
Il en a subi les conséquences. Bon, mais Russell, il a parlé surtout en tant que président de l'association des pilotes de Grand Prix, le GPDA. Il a dit ce drapeau rouge n'était pas nécessaire.
On est d'accord.
Il y avait beaucoup de gravier sur la piste, mais en fait, on pouvait nettoyer ça assez facilement dans un délai raisonnable. Voilà, surtout
sous
que la trajectoire.
Sous régime de voiture de sécurité, on faisait venir la balayeuse et hop,
oui.
Le tour était joué.
Et il a dit, nous avons vu bien pire par le passé, c'est
vrai.
Et il a dit que, pas plus tard qu'il y a 2 semaines avant, il y a eu un cas similaire sur l'abandon de Stroll qui avait rangé convenablement sa voiture en dehors de la piste. Et pourtant, ça avait donné lieu à un drapeau rouge. Donc, on est maintenant dans cette culture. Et j'ai un petit peu peur de ce que nous fait Neil Wittich, qui a très, très bien compris maintenant vers quoi on doit aller. Et d'ailleurs, il y avait son mentor, dans l'esprit, qui était sur place, c'est Michael Massey, qui nous a offert donc, ce
le
final d'Abu Dhabi
21,
en 2021, ouais. Et qui était là parce que maintenant, il s'occupe en fait, de la commission Supercar, c'est-à-dire les courses de
GT,
voilà, la série phare en, fait, en Australie. Mais il va un petit peu vers ça, et on l'avait déjà vu à Jeddah, et pour moi, c'est une dérive inquiétante, clairement. On va vers autre chose et c'est, je trouve, regrettable parce qu'on ne sait pas faire autrement. Je pense toujours à ce qu'aurait fait ou ce qu'aurait pu faire Charlie Whiting et il aurait envoyé une voiture de sécurité virtuelle. Simplement, on aurait conservé les écarts. C'est aussi une question de respect pour les sportifs, c'est-à-dire qu'ils poussent en piste pour créer des écarts et quand il y a un événement, il n'a pas d'impact sur la course. Le but, c'est de continuer la course sans avoir des conséquences dans tous les sens.
Mais
et même à la limite, il faudrait fermer la pit lane pour que personne ne prenne le pari de rentrer au stand.
Ah,
tu vois.
Ça, je sais pas s'il faut aller jusque-là. Mais pour souligner ce que tu dis, cette dérive, quand il y a la sortie de piste de Kevin Magnussen, on se retrouve là avec l'idée, on est au, je sais plus, on est à quelques tours de l'arrivée, et là il y a le problème de, ben en fait, le temps de déblayer les dégâts si on met la voiture de sécurité, la course va se terminer sous le régime de la voiture de sécurité, et ça c'est une catastrophe pour les organisateurs de la discipline parce que ça fait moins de spectacles. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met drapeau rouge. Et
oui,
là, on sait très bien ce qui va se passer. Ça va être un carnage. On le sait.
Je te pose la question, est-ce qu'il y a une obligation de spectacle dans le sport?
Non, mais c'est ça.
Voilà.
Il y a des matchs nuls, 0-0, qui se terminent sans but. Et bah, tant pis, c'est comme
exactement.
Ça. Le sport, c'est pas du pop-corn. C'est pas à chaque fois que c'est la fête. De temps en temps, il y a des courses qui sont un petit peu frustrantes. Et il faut s'y faire.
Et
ça fait partie de la magie du sport.
Oui.
Il n'y a pas un match avec à chaque fois 4 buts, un retourné acrobatique en foot. Et ben, c'est pareil en Formule 1.
On a attendu quand même 32 minutes entre le drapeau rouge, donc après l'accident de l'avant-dernier départ, et puis ce dernier départ, en fait, qui était un départ symbolique.
Pastiche.
À la queue leu-leu,
oui.
Je dirais, donc il manquait plus que la fameuse musique, hein, tout le monde s'éclate. Vraiment, c'était génial, hein, 32 minutes, il y avait un officiel de l'IFIA qui était dans la pit lane en disant, toi tu te mets là, toi tu te mets là. Mais oui, bah, vous allez faire quoi les gars, juste à part parader le dernier tour pour faire ce 58e tour qui servait à rien. On n'était pas capable de dire, on en reste là.
Non mais bon, c'est ça qui est incroyable.
Et tu vois, dramatique.
Tout à l'heure, tu disais, c'est un... Ça, les choses, en fait... Se provoque elle-même. Aux États-Unis, il y a un dicton sur la NASCAR qui dit « Yellow, bring yellow ». Autrement dit, quand vous neutralisez la course une fois, très souvent, derrière, il y a une autre neutralisation parce que forcément, vous remettez tout le monde, ça redonne une chance à ceux qui sont un peu loin. Alors, bah, finalement, si vous êtes 15e, vous n'avez pas de gros risques à faire un freinage Ave Maria au premier freinage. De toute façon, vous êtes 15e, ça ne va pas marquer de points. Et puis, vous tentez le coup. Et bien là, j'ai envie de dire que les drapeaux rouges appellent les drapeaux rouges en Formule 1. Parce que à deux tours de l'arrivée, relancer une course, vous savez très bien qu'il va y avoir des manœuvres qui vont être extrêmement compliquées. D'autant plus maintenant qu'on commence à mettre les pneus moins haut en température sous les couvertures chauffantes. Là, il va falloir qu'il y ait une vraie réflexion là-dessus. Parce que soit on décide de faire des économies d'énergie et on ne chauffe plus les pneumatiques. On rappelle que c'est le but, hein, ça va arriver à un moment, il n'y aura plus de couverture chauffante du tout en Formule 1, et ça veut dire que les premiers virages vont être extrêmement délicats pour tous les pilotes, mais quelque part, c'est un savoir-faire aussi d'arriver à déterminer où est la limite dans les premiers virages et dans les premiers tours. Mais si vous ne chauffez plus les pneus et que vous multipliez le nombre de départs, là, c'est 8 abandons, mais il y en aura beaucoup plus à l'avenir. Ça, c'est une certitude.
Bien entendu, malheureusement, après, bah, qu'est-ce qui tourne sur les réseaux sociaux, des images des accidents, d'accrochage, etc. Exactement. Et le sport se déplace vers un autre public. On sait pourquoi il est venu aussi. C'est pour avoir de l'intensité régulièrement. On n'a plus le droit de s'ennuyer pendant 20 minutes en disant « ça va se décanter un moment, tout est en place ». Et puis, les gens vont retourner leurs cartes et puis on va voir qui a le meilleur jeu à la fin, parce que c'est un suspense qui se construit.
Et c'est dans l'ADN du sport mécanique, ça.
Tout à fait, tout à fait. Donc, on laisse plus ça. Maintenant, il faut de l'excitation, en fait, en permanence. Moi, c'est ça qui me pose problème, c'est-à-dire, et ça passe par des accidents. Donc,
j'ai l'impression.
Et puis, le public change. Le public s'est permis de passer des barrières, de pénétrer sur la piste, d'envahir la piste.
De casser une barrière.
Voilà, c'est ça, avant la fin du Grand Prix. Là aussi, c'est pareil, c'est un précédent, c'est quand même assez grave. La FIA s'en est inquiétée, oui, heureusement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a un public différent pour parce que l'offre change.
Je vais te dire, Stéphane, en nous écoutant, j'ai l'impression que c'est un discours un peu de vieux con là, qu'on est en train de, qu'on est en train de tenir, il faut qu'on se méfie. Mais alors, allons-y maintenant. Parce que alors, le week-end australien avait quand même commencé par une évocation assez inquiétante de la part de Stefano Domenicali, qui est donc le patron de la Formule 1, et qui dit « Oh, les essais libres, il ne se passe pas grand-chose, on va peut-être les supprimer ».
T'as remarqué quand même que quand il parle, la décision est déjà prise.
Mais en fait, c'est ça.
Max Mosley lançait comme ça des idées pour provoquer, pour faire réagir, pour faire discuter, lancer le débat. Des fois, c'était, je dirais, caricatural, mais au moins, ça poussait au débat. On arrive à quelque chose, il y avait un consensus. Là, en fait, la discussion a déjà été faite et les équipes sont d'accord.
Alors, je ne sais pas si elles sont d'accord parce qu'il y a quand même.
Elles sont prêtes à voter.
Il y a quand même un double champion du monde qui a dit que c'était quand même une drôle d'idée. Alors, on ne veut plus faire d'essai libre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sanction à la fin d'essai libre. Il n'y a pas de sanction visible, monsieur Domenicali, mais il y a une sanction dans le travail de chaque équipe pour tester les réglages des voitures, savoir dans quelle direction on va établir une stratégie. Il se passe plein de choses. C'est juste qu'il faut, il faut juste avoir la patience et l'intérêt de comprendre un petit peu jeu qui est en train de se mettre
dirais,
en place.
Je te dirais même, Gilles, il y a deux rookies sur le plateau qui ont besoin d'apprendre les pistes, qui ont besoin de rouler, de tourner, ça sert à ça. On a déjà réduit la durée des essais libres du vendredi de 90 minutes à 60 minutes. Maintenant, on va les réduire à 60 minutes. Alors qu'il faut tester des voitures sur un tour, sur un relais de course, tout ça, ça se construit. Quand tu as des problèmes de météo aussi, c'est-à-dire de pluie, c'est bon à Spa, par exemple, de faire tourner quand même le vendredi, s'il y a de la pluie, les pilotes sous la pluie pour prendre un petit peu connaissance des situations d'incertitude, l'adhérence, etc. Enfin, les problèmes de visibilité. Donc, tout le monde est un petit peu est sur ses gardes. Exactement. Quand cette situation se présente le dimanche. Mais lui, il dit, non, mais en fait, tout ça, c'est une forme de pollution, et c'est un mépris mais fantastique pour les techniciens.
Ce qui est fou, c'est qu'il a quand même dirigé une équipe de Formule 1. Qu'est-ce qu'il faisait lui pendant les essais libres? Il était au bar?
Il est passé de l'autre côté de la du pouvoir, ça c'est clair, il voit les choses autrement maintenant.
Bon. Alors, regardez ce qu'il a proposé pour le prochain Grand Prix, qui sera donc un Grand Prix à Bakou. Alors là, pour le coup, il n'y a même pas de jeu de mots. Vendredi matin, essais libres. Vendredi après-midi, qualification pour le Grand Prix qui aura lieu le surlendemain. Samedi matin, qualification en vue de la course sprint. Course sprint qui aura lieu le samedi après-midi. Et ensuite, le Grand Prix le dimanche, issu de la grille, donc, de la qualification du vendredi. Je ne sais pas si vous avez bien suivi.
Bon,
moi, j'ai une proposition à faire, Stéphane.
Je t'écoute.
On peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin. Moi, ce que je propose, tout le monde arrive le samedi soir. Comme ça, on fait des économies. On fait un grand show télévisé le samedi soir avec deux tirages au sort. Le premier tirage au sort, on détermine les places sur la grille de départ.
Alors ça, on revient aux voilà. origines avec de la
les
Formule
petites 1. Boules, avec les petites boules du loto, tu sais, qui découlent comme ça. Tu peux mettre des sponsors en plus sur les boules. Ça fera. Et alors, deuxième tirage au sort, quel pilote conduit quelle voiture? Et là, c'est magnifique.
Carrément. Là, on va jusqu'au bout du raisonnement.
Et c'est plus clair. Sport. Et c'est plus un sport. Et parce qu'à la fin, si tu as rempli une ligne, et bah, tu cries bingo. Et bah, bah, c'est n'importe quoi.
La logique, en fait, c'est que les pilotes arrivent avec le plus haut degré d'incertitude quant à la préparation de leur voiture. Et puis, le lien qu'il y a entre la voiture et la piste, parce qu'il faut quand même la corder. Tout ça, on fait des objets qui sont très sensibles, qui roulent à 330-340 km/h. Ça occupe 1000 ou 2000 personnes quand en plus la marque fabrique le moteur. Et puis là, on va dire maintenant, en fait, on nous a expliqué qu'il fallait créer le suspense par l'incertitude. Et là, on va créer l'incertitude par le chaos, tout simplement, ouais. En empêchant les gens de tourner. Moi, je trouve que c'est assez irresponsable. Il faut dire les choses très clairement. Parce que après, quand il y a un accident sur...
C'est ce que j'allais dire. Voilà, parce que un manque de préparation, etc. Accessoirement, il y a des hommes dans les voitures. Et il y a aussi des hommes et des femmes autour du circuit. Oui. L'accident de Kevin Magnussen, il a fait un blessé dans le public. C'est pas forcément la faute des organisateurs. Ça peut arriver, hein, quand vous allez sur un circuit, que vous êtes en bord de piste, vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de choses. Mais c'est pour vous dire que c'est quand même dangereux. Donc là, il y a un moment, il faut peut-être arrêter n'importe quoi. Tu sais, je me suis posé la question à un moment si Stefano Domenicali, en fait, en exposant ses projets de manière si caricaturale et finalement si ridicule, si en fait c'était pas une façon pour lui de disqualifier le format qu'il proposait lui-même, comme s'il était obligé de le faire contre son gré. J'avoue que je suis pris d'un doute.
Ah ben, c'est comme ça qu'il nous a amené en fait la solution des courses sprint, en nous expliquant que les organisateurs étaient d'accord. Alors Stefano Domenicali, il a une logique qui est très claire et il connaît son métier. Il est, il est PDG de Formula One. Le détenteur des droits, et son but c'est de développer le sport, le business, donc ce qu'on comprend, on a envie que ça touche plus de monde. Bon, et par là même, en fait, c'est densifier les programmes de compétition pendant les week-ends pour dire ensuite aux organisateurs, mais regardez, vous avez un événement le vendredi, c'est une qualif, le samedi c'est la course sprint, et je vous fais la course normale, le Grand Prix, le dimanche. Ça veut dire que vous allez payer un prize money plus important.
Ouais,
mais... Et dans cette logique, les équipes sont toutes d'accord parce qu'elles, ce qu'elles voient, c'est que effectivement les revenus vont augmenter. Et qu'est-ce qui se passe aussi par rapport à ces équipes? Comment est-ce qu'elles réagissent? Elles réagissent par rapport au budget capé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut à peu près 130 millions d'euros pour faire une saison de Formule 1. Et tout ce que tu as en termes de bénéfices autres, ça revient à tes actionnaires, aux propriétaires de l'équipe. C'est pour ça que maintenant, eh bien, tout le monde a envie de rentrer en Formule 1 parce qu'on a compris que c'est quand même quelque chose d'assez rentable. Bon, et Stefano Domenicali, il est là pour pousser, pour densifier, mais il n'avance pas toujours les bonnes raisons pour ça. Et là, je trouve que ça va trop loin. C'est tout simplement... Alors, dans tout ça, quand même, on évite la solution du pire pour moi, qui est une grille inversée, parce que je l'ai toujours dit, la Formule 1, ce n'est pas le championnat des remontées. Hein, donc moi, ça ne m'intéresse pas de voir un poleman puni, obligé de partir dixième du sprint pour essayer de voir ce que ça va donner, jusqu'où est-ce qu'il va remonter. Donc, on nous épargne ça. Pour le reste, je vois simplement que ça va être décidé par l'intermédiaire d'un vote. On est prévenu très, très tard, après même le début du championnat, tu te rends compte, Gilles? C'est-à-dire que on va changer les règles en cours de partie.
Ça, ouais, c'est tout à fait. Ça, c'est clair.
Et en fait, il n'y a plus de personne qui dit là, moi, je mets mon veto à ça parce que c'est pas dans l'ADN du sport. Toto Wolff faisait ça avant. Je ne l'entends pas, Toto Wolff, là-dessus. Et pourtant, je doute que ce soit ça lui plaise beaucoup.
Bon. Non, on va voir où on en est. On va arrêter sur le sujet.
Et ces directeurs d'équipe, pour l'instant, sont prêts à voter, et je pense que s'ils organisent un vote, c'est pas pour se prendre un tacle hein, à Formula One.
Non, donc, c'est qu'ils savent déjà que ça va passer.
Exactement.
On verra ça. Mais c'est pour vous dire que là, le spectacle tue le spectacle, et pour qu'à la fin, ceux qui sont venus par Netflix, qui sont pas forcément tous des passionnés au long cours, vont partir, et ceux qui sont passionnés depuis des décennies et des décennies risquent de partir eux aussi parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Et la boucle est bouclée, le spectacle aura tué le spectacle. On va évoquer maintenant Mercedes, qui a sans doute fait, alors c'est les mots même qu'a employé Toto Wolff dans un communiqué, un pas en avant à Melbourne, et c'est drôle parce que j'avais écrit à ce lancement.
Je suis témoin.
Ah, et voilà, Stéphane est témoin à côté de moi, avant même que la déclaration soit publiée, avec donc Une la deuxième place de Lewis Hamilton sur ce Grand Prix d'Australie, qui est le premier podium pour Mercedes cette saison. Les pilotes de la firme à l'étoile qui se sont retrouvés aux deux premières places de ce Grand Prix, hein, en début d'épreuve. Ils étaient deuxième et troisième sur la grille. On va voir justement l'évolution, hein, de Mercedes en qualif depuis le début de la saison. À Bahreïn, 6e et 7e, à un tout petit peu plus de 6 dixièmes de la pole. Ensuite, en Arabie Saoudite, 4e et 8e à moins de 6 dixièmes. Et enfin, donc, la semaine dernière en Australie, 2e et 3e sur la grille. Alors certes, il y a eu le problème pour Sergio Pérez qui était sorti en qualification. On peut imaginer qu'intrinsèquement, Sergio Pérez pouvait viser la deuxième place.
Mais ça, c'est par rapport à la pole, de toute façon. Donc,
et à 236 millièmes de la pole, ouais, position de Max Verstappen, on voit bien qu'il y a effectivement, pour reprendre l'expression du patron autrichien de la firme Mercedes, il y a bien un pas en avant qui a été franchi par Mercedes.
Trois jours de test pour se préparer à la saison, c'est quand même très très faible. La première piste de la saison, Bahreïn,
pas
du tout. On pensait qu'il y aurait un mieux à Jeddah, et c'est là où on avait été super déçus et assez inquiets quand,
oui,
même.
Oui, oui.
Et puis là, en fait, on revient sur un circuit qui est un petit peu plus conforme à ce qu'on va voir ensuite, même si c'est un circuit semi-urbain. Et là, effectivement, ils sont dans le coup, mais ils ont dit qu'ils étaient parvenus à mieux exploiter la voiture à 100%. Toto Wolff a dit on a progressé en fait sur un tour et en rythme de course.
C'est ça, sur les deux
de
tableaux
aussi. Donc ça, c'est quand même notable. Après la deuxième course, il avait dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'on commence à comprendre comment fonctionne la voiture, ce qu'il faut mettre dessus, et on a trouvé des choses très intéressantes en soufflerie.
Et
alors,
oui,
ça, c'est sans avoir mis les nouvelles pièces, sans avoir refait les pontons, ni rien d'autre. Et Hamilton tenait à peu près le même discours. Hamilton dit même, on progresse. Ça va être dur, entre parenthèses, de rattraper Red Bull, mais ce n'est pas impossible. Et c'est la première fois qu'il tient ce discours vraiment volontariste sur les objectifs. Là, ils ont commencé la saison KO debout. Ils commencent à se reprendre. Et moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, sur le départ, sur la façon de mener la course, c'est qu'ils ont été proactifs. Ils ont joué à 2-1.
Exactement.
Et ils ont agressé, il n'y a pas d'autre mot,
Verstappen. Exactement.
Red Bull, Russell,
ouais,
et Hamilton, ils sont allés, mais franco, et c'est ce qu'il faut faire avec Verstappen. Je me suis dit, ça y est, enfin, il y a des gens qui font à Verstappen ce qu'il a fait pendant des années.
Ce que Red Bull a fait aux autres.
En tant que challenger, en disant, mais moi, je ne suis pas là dans la course au titre, et je me permets d'arriver là-dedans, rangez-vous, autrement, on va avoir un accident.
Exactement, voilà. Et c'est exactement ce que je me suis dit quand Russell a pris l'option, lui, de passer au stand pour changer de
pneumatique
sur la première neutralisation.
Il fallait partager les stratégies.
C'était idéal pour Mercedes.
De toute façon, c'est
clair. Ils avaient un coup dans les deux directions, et en attendant que, à la fin, on sache. Malheureusement, le drapeau rouge, finalement, les a privés d'une des deux voitures, hein, parce que, alors, on ne le savait pas à ce moment-là, mais finalement, le moteur de George Russell a fini par casser. Et c'est là que je me dis aussi, on voit aussi un George Russell qui continue d'avancer. Là, il était encore devant Lewis Hamilton. C'est lui qui a été le plus proche de Max Verstappen. C'est lui qui avait finalement le choix de l'option, savoir si on prenait un risque en stratégie ou bien si on restait sur le plan A. Et il y est allé. Moi, je trouve ça très, très intéressant du côté de chez Mercedes. Après, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu. Justement, ce que tu disais, c'est on a été ultra alarmiste et j'ai envie de dire, on a overréagi, surréagi, pardon, excusez-moi, je suis un anglicisme complètement nul. On a surréagi après le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn où on savait que la voiture n'était pas bien sur ce circuit en disant oh, faut tout remettre à plat, on va remettre des pontons. Enfin, c'était vraiment, j'ai trouvé ça vraiment curieux après le premier Grand Prix de la saison finalement de repartir à l'inverse de ce qu'on avait dit depuis des mois et notamment pendant la trêve. Il y a eu aussi toute l'histoire où Lewis Hamilton a dit « mais j'ai l'impression d'être assis sur les roues avant de, ouais, de la voiture ». Et tout ça, ça semble un petit peu oublié. Je suis plutôt content de voir que l'écart se réduit, parce que plus ça se réduit, plus on peut penser qu'il y aura des chances qu'il y ait des surprises tout au long de cette saison, parce que, qu'on ne se trompe pas, hein, Max Verstappen reste le favori au départ de chaque Grand Prix de la saison. N'empêche que si l'écart se réduit, il peut se passer des choses. Donc, je suis content de ça, et en même temps, je m'inquiète un petit peu, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, c'est-à-dire, il fait beau, et on a l'impression que les gens de chez Mercedes sortent de l'usine en disant « Ah, oh, c'est génial, il fait beau, il pleut, oh, on abandonne tout, il pleut ». Un petit peu de constance, monsieur, dame, ça serait bien.
On a vu Toto Wolff avec un grand sourire, quand même, ça faisait longtemps.
Oui, hein, oui, oui, oui.
Donc,
il y a un côté cyclotimique, moi, qui m'inquiète un petit peu, tu vois ce que je veux dire ?
Oui, mais là, ils ont quand même été rassurés. Alors, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que maintenant, aujourd'hui, tu essaies de faire une voiture qui va être pas trop mal sur tous les circuits. Je m'explique. Il y a 20 ans ou 25 ans, tu pouvais faire une voiture qui était typée circuit rapide. Par exemple, tu avais des tracés comme l'ancien circuit d'Hockenheim, Spa, Monza. Tu donnais une spécificité vraiment à ta voiture.
Une
Maintenant, il faut
teinte,
qu'elle
ouais.
soit un petit peu
Passe-partout.
complète et. Parfois, bah, tu es à côté du sujet sur des grands prix. Quand on a 22 dans la saison, bah, tu es hors sujet sur certains circuits. Peut-être aussi, ils le seront à Monaco, parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'ils ne sont pas bien à Monaco. Tu as un empattement long, tu fais des choix comme ça. Et c'est vrai qu'on a surréagi par rapport à un circuit très particulier. Maintenant, ils travaillent. Il faut que le diagnostic soit bon, c'est tout, et qu'ils aient un plan. Ils ont dit qu'ils ne pourraient pas refaire la voiture complète, c'est-à-dire un nouveau châssis, parce que ce n'est pas dans le budget cap. Bon, donc comme ça, c'est réglé. Mais on a trouvé des points positifs. Et moi, ce que j'ai quand même aimé aussi, c'est que Russell a posé la question dès le début de la course, est-ce que j'attaque pour me détacher de Lewis, ou est-ce que je peux garder mon rythme et que lui va savoir bouchonner Verstappen derrière pour que. On ne soit pas tous les deux perdants à détruire nos pneus. Bon. Donc, il y avait encore quand même une certaine connivence entre les deux pilotes et lui, il écoutait ce qu'on allait lui dire. Donc, ça, c'est intéressant. Et ils savent qu'ils sont embarqués dans la même galère et que l'objectif, c'est battre Verstappen. Et quand il n'y a pas Pérez,
C'est
il y a une
jouable.
vraie carte à jouer
Exactement.
là-dessus. C'est intéressant. Alors, on revient un petit peu à cette notion-là du spectacle. Tu as vu comment est-ce qu'il s'est fait croquer à coup de DRS là, par Verstappen. Bon, Verstappen avait un bouton push-to-pass, tout simplement. Il prend combien? 30 km heure, c'est un
Ce
peu
qui
écœurant.
ça c'est vraiment ça c'est vraiment incroyable. Je peux te
Ouais.
confier une petite indiscrétion. La vitesse avec laquelle la Red Bull dépose littéralement les adversaires avec le DRS. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été développé précisément par Adrian
Absolument,
Newey pour
oui.
tirer vraiment le bénéfice de la voiture en position DRS. Et ça a tellement choqué que je pense que c'était à Jeddah, Nicolas Tombassis, qui est donc le responsable technique de la FIA, est allé inspecter le plancher de la Red Bull pour voir si tout était réglementaire, tellement la différence avec les autres
Oui,
est
mais
écrasante. Et s'il n'y a rien eu, c'est qu'elle est au règlement, cette
Oui,
voiture.
mais il n'était peut-être pas obligé de mettre une quatrième zone DRS. Cette année,
Ça, c'est
alors que
sûr.
l'année dernière, il l'avait retiré le vendredi soir pour dire c'est trop facile. Alors, par contre, la
Bon, il serait
Mercedes,
passé quand
elle
même.
était bien
Il serait
parce
passé quand
que
même.
sur ce circuit, quand même, tu n'avais pas réellement de longs virages en appui. Bon, entre le 8 et le 9, ça roule quand même assez vite. C'est un long gauche, mais autrement, on est en permanence dans des changements de direction à des vitesses intermédiaires. Donc, ce n'est pas encore ce circuit-là qui a donné vraiment la véritable hiérarchie. Je pense qu'on le verra à Montmélo, mais il y a un mieux, incontestable, c'est pas mal, c'est un peu une surprise, sans mise à jour, sans rien, hein, donc sur la voiture.
Je me demande s'ils n'avaient pas quand même apporté quelques toutes petites modifs en Australie. J'ai pas réussi à avoir le fin mot de l'histoire avant l'enregistrement de ce podcast, mais je me demande s'il n'y a pas eu quand même des toutes petites choses. Juste un point très positif pour Mercedes sur ce Grand Prix et un point très négatif. Le point très positif, c'est que on a presque retrouvé le Lewis Hamilton gonflé à bloc par cette course en deuxième position où il a
Chanceux.
sorti. Oui, un petit peu.
Chanceux parce que l'année dernière, la safety car, c'était tout le temps
C'était pour
contre lui.
lui,
Voilà,
voilà,
c'est ça. On te
exactement.
dit, mais ça y est, il est du beau
Voilà.
côté
Alors, de
de.
manière un petit peu artificielle, parce que c'est vrai que ce drapeau rouge a écarté George Russell de sa route, mais effectivement, la chance, soit on l'a, soit on l'a pas. L'année dernière, il l'avait pas du tout. Et là, bah, finalement, elle était de son côté. Et puis toute cette partie de la course qui était un petit peu, j'allais dire ennuyeuse, en tout cas par laquelle il faut passer, où chacun était là sur l'usure des pneumatiques à essayer de gérer l'écart par rapport aux autres tout en ne tapant pas dans le capital pneumatique. Ça, Lewis Hamilton, c'est un expert dans le domaine. Ça, c'est le point très très positif de ce qu'on a vu pour Mercedes en Australie. Le point négatif, c'est la casse moteur de George Russell. Il y a déjà eu un moteur cassé chez Mercedes, c'était celui de Lance Stroll à Jeddah. Est-ce qu'il n'y a pas un loup là sur les moteurs Mercedes? Je pense que c'est une des menaces pour Mercedes qu'il va falloir rapidement résoudre, sous peine de se retrouver régulièrement en difficulté ou, dans une moindre mesure, de prendre des pénalités pour changement de moteur sur la grille. Voilà ce qui me semble être un petit peu les deux grands enseignements pour ce Grand Prix de Melbourne. Il va y avoir maintenant 4 semaines, hein, puisqu'il devait y avoir le Grand Prix de Chine dans 15 jours. qui a été annulée, qui est tombée au niveau du calendrier. Donc là, il y aura un mois sans Grand Prix. On va pouvoir reprendre toutes les datas et beaucoup travailler du côté de chez Mercedes. On va se retrouver à Bakou sur un circuit où il y a assez peu d'usure de pneumatiques. Comme à Melbourne, il y aura peut-être un coup à jouer pour les pilotes Mercedes.
Circuit urbain. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner à Bakou. Je n'ai pas regardé les stats de Mercedes. Mais ça va être. Moi, j'attends vraiment. Même, je crois qu'après, il y a Miami. Et j'attends de voir ce que ça donnera vraiment à Imola, peut-être même. Les Grands Prix qui vont suivre, le retour en Europe. Pour voir où est-ce qu'on en est, parce que même Bakou, je crains que ça déforme un petit peu la réalité.
On verra ça, mais il y a du bien, il y a du bon du côté de chez Mercedes.
Et puis surtout de voir Lewis Hamilton en bagarre avec Alonso et le respect qu'ils se sont témoignés l'un l'autre à l'arrivée, ça faisait plaisir quand même.
Tu fais bien d'en parler, je vais terminer là-dessus, Stéphane, parce que là, on parlait tout à l'heure du Grand Prix de tous les excès, et tu as. On a rappelé des statistiques, mais il y a une statistique qu'on n'a pas rappelée quand même pour s'adoucir un petit peu ce Grand Prix gâché par les décisions un petit peu dans tous les sens. C'était le premier podium avec trois champions du monde sur les trois marches du podium depuis la Hongrie 2018, la victoire de Lewis Hamilton devant Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen. Ouais. Bon, ça n'arrive pas tous les jours. C'était quand même sympa ce podium, même si évidemment on aurait été content aussi d'y voir George Russell. Mais bon, il y avait quand même un certain lustre et on voyait bien que les deux vieux briscards étaient contents de se retrouver là en se disant voilà. Bon, on n'est pas fini.
Tout à fait. Et tu vois, pour tirer la conclusion de tout ça, c'est qu'on dit regardez ce podium qui est magnifique. La course a été un bazar indescriptible, comme on dit certains pilotes. Mais le résultat crédibilise l'ensemble, si tu veux, puis on avance comme ça.
Ouais, bon. mais c'est pour ça qu'il faut, quand même qu'il y ait des gens qui rappellent que on peut mieux faire dans la gestion de cette course. Et chez Mercedes, il y a donc des points positifs. Et alors là, vous allez vous dire qu'on est complètement tombé sur la tête avec Stéphane dans les fous du volant. Mais nous, on a vu des choses positives dans le clan de chez Alpine aussi. Alors ce matin, évidemment, on ne vous parle que du crash entre Pierre Gasly et Esteban Ocon, de ce contact redouté, annoncé, de cette explosion nucléaire entre les deux pilotes français qui ne peuvent pas s'entendre. Eh bien oui, il y a eu accrochage. Oui, on a perdu des points parce que...
11.
Voilà, parce que Pierre Gasly repartait cinquième, que Esteban Ocon repartait onzième. Oui. Et pourtant, il y a quand même eu des points positifs. Alors d'abord, si on prend les conséquences de cet accrochage, moi, sur le coup, je me suis dit, oh là là, ça va se terminer à coup de petits mots sur les réseaux sociaux. Et finalement, eh ben, il y a eu... Alors, c'est sans doute organisé aussi par l'équipe, mais je crois pas tant que ça. Je crois que les deux pilotes eux-mêmes ont compris que c'était dans leur intérêt, finalement, de désamorcer cette histoire, que c'est un fait de course.
Alors, fait de course classé tout de suite par la FIA, pas de sanction. Alors, Ocon, quand même, Esteban Ocon parle de... voilà, Pierre revient en piste, il me serre un peu sur la droite, ce qu'on a vu effectivement. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il était dans l'angle mort de l'Alpine numéro 10.
Bon, mais il revient en piste, il est un peu en mode cata, Pierre.
On en a discuté, il s'est excusé. Mais de quoi? Non, mais je pose la question.
je suis
c'est faux, t'as pas de chance là-dessus. Et je trouve que cette précision-là est un peu tendancieuse. C'est-à-dire que c'est... la
si on
faute,
dit que c'est un fait de course,
voilà, du coéquipier.
Et
voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et alors, dans le communiqué de presse de l'écurie, on veut effectivement dégonfler la polémique. On dit il n'y a pas de rancune. Donc ça, c'est dans les termes, dans les propos d'Esteban Ocon. Donc on referme ce dossier-là. C'est vrai que c'était pas intentionnel. La seule chose, effectivement, c'est que dans la frénésie d'un démarrage où il reste quelques tours, il restait combien? 2-3 tours?
Ouais, 2 tours. Hein,
voilà, c'est ça. Si tu perds une place, tu ne la vois jamais.
Et c'est ça.
Donc, on a vu Perez sur une sortie aussi revenir en piste en mettant accélérateur à fond. Tu n'as pas d'autre solution que de faire ça. Mais bon, j'avais quand même vu. Alors, Gasly et Ocon étaient dans une mauvaise posture. C'était la cohue. Et ils ont accéléré tous les deux. Moi, j'ai vu au 7e tour que Ocon avait quand même eu une friction avec De Vries quand même. Et il a un petit défaut quand même, Esteban Ocon, c'est qu'il ne lève pas le pied.
C'est un pilote rugueux. C'est un pilote rugueux, on le sait. Mais quelque part, Alpine, c'est le profil de Esteban Ocon. J'ai le sentiment qu'on veut...
Ah, mais ça, c'est les années Pérez. On les a vues à plusieurs reprises. C'est clair.
C'est son caractère.
Si tu freines, t'es un lâche. Voilà. Patron, vous avez vu, je suis resté bien à pied au plancher. Et si tu veux, tu préfères dire ça, puis que tu as eu un petit accrochage, une touchette, plutôt que de céder et de passer un peu pour un faible. C'est aussi par rapport à ton équipe, par rapport à ton patron, que tu dois donner des gages de ce point de vue-là. Donc, grosso modo, tu continues d'accélérer comme si de rien n'était, et tu dis, je croise les doigts pourvu que ça passe.
Bon, en tout cas, moi, j'ai été plutôt agréablement surpris de voir la façon dont cet accrochage, on a le sentiment que c'était inéluctable, on nous l'avait annoncé tellement de fois que ça devait arriver, voilà, et ben finalement, il n'y a pas d'explosion nucléaire.
Et Zaffnauer a dit, donc le directeur d'équipe, Otmar Zaffnauer, a dit, ils se sont tous les deux excusés envers l'équipe pour avoir gâché un résultat d'ensemble.
Vous imaginez les garçons donc, là, qui ont travaillé tout le week-end et on met ça par terre. Mais même pour eux, hein, parce que Pierre Gasly, je suis désolé, il a fait... Alors, je commence par Pierre Gasly. Il a fait une course incroyable. Il était là à résister avec à Carlos Sainz. Il était au contact et on se disait que
une
ça
pouvait... Une dizaine de tours, il a tenu.
Ouais,
hein.
ça pouvait très bien terminer sur le podium. Et Esteban Ocon, lui, a pris la décision... au moment du safety car suite à la sortie d'Alexander Albon de changer de pneumatique, c'était un bon coup à jouer. Esteban Ocon, il pouvait se retrouver dans le top 5 de cette course.
Changement de pneumatique, ils sont attaqués.
Mais oui,
ça
exactement.
Fait deux grands prix de suite que Alpine, alors là ils font le deuxième temps avec Ocon, je te dis, ils ont serré les boulons, il n'y a pas de problème. 2,36 en Arabie Saoudite, 2,65 en Australie, c'est-à-dire qu'ils ont envie de matcher les meilleurs.
Et stratégiquement, c'était courageux, intéressant de faire mettre Esteban Ocon sur cette stratégie. Voilà pourquoi ça aussi, c'est un point que je trouve optimiste. C'est-à-dire que Alpine n'était pas passif pendant ces moments-là. On avait envie de tenter des choses, on avait envie de donner les moyens aux pilotes de s'illustrer, d'aller chercher des choses. Je vous promets, avec Stéphane, c'est pas parce que Alpine est soi-disant une équipe française en Formule 1 qu'on fait de la méthode couée. Non, il y a vraiment des choses.
Non, c'est clair. Franchement, ça nous a super déçus, cet accrochage.
Mais je pense
clairement,
que aussi,
on a envie que ça fonctionne. Ah ben bon, encore plus, mais on est tous supporters d'Alpine, quelque part, parce qu'on a envie que ça fonctionne. On a une belle équipe, voilà, qui grimpe dans la hiérarchie. Et Zaffnauer a dit, je reprends tes propos à propos de la stratégie, il a dit nous avons été capables d'être d'une précision chirurgicale.
Ouais.
Ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis il a rappelé qu'effectivement, avec Gasly, ils avaient été capables de se battre pour le podium, ils l'ont entrevu, et se battre contre des Mercedes, Aston Martin et Ferrari, ce qui est quand même pas rien. Une Ferrari, bon, il n'y avait pas la deuxième. Une grande partie de la course aussi. Ça nous a bluffé quand même.
Alors, ce que Stéphane, en préparant ce podcast, on s'était dit qu'on allait faire à peu près la même présentation que pour les progrès de Mercedes, et vous allez voir pourquoi. À Bahreïn, les deux Alpines étaient 9e et 20e sur la grille. Ocon était à 1,276 de la pole. Ensuite, en Arabie Saoudite, 7e et 10e, ça se resserre déjà. Par rapport à la pole, on est à moins d'une seconde, on est à 813 millièmes, et surtout ça se resserre entre les deux autos. Et ensuite en Australie, on est encore plus proche en termes de place entre les deux autos, et on est à 940 millièmes. On est un tout petit peu plus loin de la pole, mais les deux voitures sont de plus en plus homogènes, et pour la première fois, là, dès le troisième Grand Prix, Pierre Gasly est mieux placé qu'Esteban Ocon sur la grille de départ. Il n'y a pas de favoritisme entre Pierre Gasly et Esteban Ocon, simplement, si Pierre Gasly est déjà en mesure de faire mieux qu'Esteban Ocon en qualification, ça veut dire que il comprend maintenant la voiture, il comprend comment la manier, et ça va être très très important pour l'équipe, parce que ça veut dire qu'il y a deux pilotes maintenant qui vont pouvoir vraiment tirer l'équipe, donner des directions sur ce dont on a besoin pour cette voiture. Là non plus, c'est pas de la méthode couée, mais ça veut dire que il y a maintenant deux têtes chercheuses chez Alpine, et il faut bien comprendre que on ne monte pas dans une Formule 1 comme ça avec tous les systèmes très très complexes, même si on s'appelle Pierre Gasly et qu'on est un pilote très très talentueux, en sachant tout de suite tirer 100% de la voiture. Ça aussi, c'est un point intéressant de voir que les deux voitures sont de plus en plus homogènes. Alors il y a aussi le revers de la médaille. Bah oui, ça veut dire que là, si les deux sont capables d'aller chercher 100% de la voiture et qu'on est encore à se battre pour les 9e, 10e, 11e places sur la grille de départ, il y a un plafond là. Et maintenant, oui, ce plafond, il va falloir le crever, mais on est peut-être mieux armé avec deux pilotes qui comprennent la voiture pour crever ce plafond qu'avec un seul.
il faudrait regarder aussi l'écart de la meilleure Alpine par rapport à la première non Red Bull
oui.
pour voir exactement ce qui se passe sur un tour. Mais je te dirais que ce n'est pas le plus important sur un tour, c'est vraiment le rythme de
en
course.
course.
Tout à fait, parce que tu règles la voiture pour la course, en fait. Donc, l'écart, s'il reste comme ça en course, je dirais que, enfin, en qualif, c'est peut-être pas grave. Là, on a vu qu'ils avaient fait des progrès sur l'usure des pneus en course. C'est ça le plus important, vraiment. C'est ça qui va dégager des marges de progrès, un peu de latitude sur les stratégies, sur l'utilisation des qualités de gomme. On va voir tout ça. Mais on commence à comprendre, le chemin est un petit peu long. Alors, pour tout dire, on est un petit peu déçu quand même de voir cette voiture juste refermer le top 10, se battre pour les 8e, 9e places. On espère
entrer en Q3,
bon.
Quoi. En, ouais, gros, en gros, entrer en Q3, ça semblait un petit peu la limite de cette voiture.
Et ça devrait être une formalité, je dirais, ça ne l'est pas, parce qu'il y a deux Aston Martin maintenant qui sont passés devant. Et Aston Martin spécialement,
c'est ça, le gros changement,
qui a fait
par
une belle
à
voiture,
dernière.
Voilà, en montrant qu'on peut faire vraiment un grand pas en avant que n'ont pas su faire les autres équipes. Alors, je mets de côté Red Bull, mais globalement, toutes les autres équipes sont devant ce constat où, avec un bon directeur technique, avec un bon chef aéro, un chef designer qui fonctionne bien aussi dans ce trio-là et qui emmène toute une équipe. Hein. On vous parle d'un petit groupe, vraiment d'une cinquantaine d'ingénieurs déjà qui sont au top niveau sur la conception. Et puis après, bah, c'est 1000 personnes qui sont derrière. Donc, on a plusieurs strates comme ça. Mais si on a déjà un guide, un leader technique qui sait emmener tout le monde, c'est facile, enfin, c'est possible,
oui, c'est possible.
De faire un step comme ça, comme l'a fait Aston Martin. Alors, Mercedes, on a vu, ils ont un problème, ils ne savent pas encore si Mike Elliott a la direction technique depuis 2 ans, est l'homme de la situation. Ferrari, c'est en chantier,
ils ont
encore un directeur technique, ils ont perdu le chef designer, c'est quand même assez inquiétant, là, c'est un petit peu panique à bord quand même pour cette année et pour l'année prochaine. Et toutes les équipes sont un petit peu comme ça. McLaren n'a pas de directeur technique, Williams n'a pas de directeur technique, il faut les recruter.
McLaren,
Sanchez, il va arriver le 1er janvier.
C'est ça, donc, il est là, mais
il est pas encore en place. Tout à fait.
Il est en cause de jardinage.
Et puis, il y en a d'autres qui se battent aussi au cœur du peloton. Je pense par exemple à Alfa Romeo, qui a un directeur technique qui s'appelle Simone Resta, qui est placé, je dirais, entre guillemets, par. C'est quelqu'un qui est loyal à Ferrari. Ferrari utilise, donne ses moteurs, enfin loue ses moteurs, oui, à Alfa Romeo. Et apparemment, Simone Resta pourrait peut-être retourner chez Ferrari, ce qui fait que ça laisserait Alfa Romeo sans directeur technique.
Bon, j'ai envie de dire, vu les résultats d'Alfa Romeo, oui, je pense qu'il serait peut-être plutôt content de changer de directeur technique, moi. Mais
tout à fait. Mais dans tout ça, tu remarqueras que l'une des seules équipes qui est stable et qui n'est pas touchée par cet anticyclone, eux, ils sont dans l'œil de l'anticyclone au niveau technique, c'est-à-dire que tout ce qui est autour d'eux, ça tourne à grande vitesse.
C'est Alpine, c'est ça que tu veux
dire ? Ils sont au centre, voilà, et ça bouge pas parce que ils ont, je pense, un duo qui va être assez performant. Alors, sous la houlette de Pat Fry, qui est un vieux de la vieille, qui a fait des très très belles voitures et qui est chef du haut bureau technique, mais ils ont surtout Matt Hardman, qui est le directeur technique châssis, et puis Bruno Famin, qu'on connaît bien, qu'on connaissait de la période Peugeot, qui est arrivé comme directeur technique moteur à Viry. Et ces deux personnes-là, je trouve, travaillent bien ensemble. Et c'est Matt Hardman qui le dit. Alors, Matt Hardman, il a un profil déjà très intéressant d'ancien motoriste pendant 18 ans. Il a fait des moteurs dans le civil, dans le militaire, dans le sport.
C'est très typé moteur, en fait, cette équipe Alpine.
Et c'est un ancien de Mercedes. Il était d'abord du côté industriel, Mercedes AMG. Et puis, il est passé dans l'équipe F1. De 2011 à 2018. Et
wow, c'est lui ça spécialement, marchait pas trop mal comme période.
Voilà, c'est ça. Et c'est lui qui a été spécialement affecté au nouveau moteur hybride en 2014. Et Matt Hardman, il dit, moi, c'est Bruno Famin, c'est quelqu'un que je comprends bien. Je comprends ses besoins, ses demandes par rapport au moteur, parce que j'ai vécu de ce côté motoriste. Et maintenant, aujourd'hui, il cite des exemples très simples. C'est qu'aujourd'hui, quand un ingénieur réfléchit aux pièces qu'il faut fabriquer pour le refroidissement sur le moteur, il est en totale harmonie, en symbiose avec l'ingénieur qui fait les pièces aussi pour le refroidissement sur le châssis. C'est-à-dire que tout ça, c'est imbriqué, c'est très important. Et Matt Hardman, C'est lui qui, en 2018, a commencé à travailler sur la voiture du règlement suivant. Donc, ça devait être à l'origine 2021. Finalement, ça a été 2022. Et c'est lui qui a dit, mais en fait, en commençant à bosser sur cette voiture, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il nous faudrait 100 Grands Prix pour parvenir à notre objectif. Ça vient de lui, ce constat de se donner du temps pour monter progressivement en gamme.
Le fameux
L-plan. Tout à fait. Et c'est lui aussi qui a demandé à refaire un moteur pour 2022, parce qu'il fallait se rapprocher des meilleurs blocs. Je dirais qu'il ne manque rien chez Alpine, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. On a des gens qui travaillent en cohésion, et je trouve que les pièces vont sortir. Il y a deux pilotes qui se comprennent bien. Il y a une forme d'émulation quand même. Voilà. Clairement. Donc ça aussi, c'est bien. S'ils tiennent le même discours, bon, on va attendre pour voir ce que ça donne. Mais il faut quand même aller chercher les trois équipes devant avant de pouvoir menacer Red Bull. Et peut-être que cette première équipe s'appelle Ferrari.
Ouais, exactement. Bref, voilà. Et on vous le dit, encore une fois, on n'est pas de parti pris. Mais il y a des choses positives de ce Grand Prix d'Australie à tirer pour Alpine.
Tout à fait. Et j'ajoutais d'ailleurs que ça va être important dans l'optique du développement aussi d'Alpine. On peut considérer que c'est une faiblesse de ne pas avoir d'équipe client.
Oui.
Comme Mercedes, alors bon, tu as parlé des casse moteurs, elles ont peut-être une origine voisine ou ils vont peut-être en tirer des conclusions. Mais Matt Harman, il dit, de son expérience qu'il a eue chez Mercedes F1, qui fournissait beaucoup d'équipes sur le plateau, il y a toujours un élément de distraction et des compromis à faire pour que le moteur interagisse bien avec ses autres voitures, avec ces châssis-là. Ouais. Donc, en fait, c'est ce moteur qu'on essaie d'accorder pour l'équipe d'usine, on va dire, et pour les autres équipes. Et des fois, bah, ça affaiblit un petit peu l'équipe d'usine. Et là, il dit, nous, on n'est pas là-dedans. Ah, on d'accord. sait ce qu'on a à faire.
Donc, lui, il dit, au contraire, c'est un point positif.
Il le voit comme un point
d'accord.
positif.
Okay.
Et Alpine n'aura, a priori, pas d'équipe client avant 2026.
Bon, bah, écoutez, on verra. C'est intéressant comme information. Alors évidemment, ça fait quand même, on l'a dit, 11 points de perdu. Et on va terminer là-dessus. 11 points de perdu pour Alpine. Alors, ça les aurait mis devant McLaren, c'est-à-dire 5e au niveau du classement des constructeurs. Il y a quand même un gap à franchir. Et tu disais aller chercher Ferrari, ça c'est clair. Il y a quand même encore un gap à franchir, je le disais, et un plafond de verre à abattre pour aller chercher ensuite effectivement le trio de tête dans lequel on retrouve maintenant Aston Martin, mais comme quoi c'est possible de se propulser aux avant-postes, et on espère que ça sera le cas lors de la prochaine épreuve du côté de Bakou. Il faudra attendre un long moment maintenant, hein. Il y a quasiment une trêve, bon, il y en a l'habitude de dire, de parler de la trêve estivale, bah, ça sera une trêve printanière pour le paddock de la Formule 1, avec donc quasiment un mois d'écart entre le Grand Prix d'Australie et le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Stéphane, on a fait le tour, je crois. On aurait pu vous parler de Ferrari, on va avoir le temps, hein, on le disait, là on a quand même plusieurs semaines avant la prochaine épreuve. Prochain Grand Prix, donc ça sera en Azerbaïdjan. La semaine prochaine, on aura un invité de marque, Stéphane, c'est Sébastien Bourdais qui va venir nous rejoindre, nous dire un petit peu comment il voit les choses. On parlera aussi un petit peu d'endurance, hein. Sébastien Bourdais va revenir dans la Sarthe au mois de juin prochain pour disputer les 24 heures du Mans avec Cadillac.
Et une chance de victoire, franchement. Hein.
Clairement.
C'est fantastique.
Hein. Oui. Ouais. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas, le hashtag les FDV, les fous du volant, et vous nous envoyez éventuellement si vous avez des questions à poser à Sébastien Bourdais. On sera ravis d'être le relais de vos questions. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on a tout dit, alors la phrase rituelle. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, on coupe le contact.